Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier, nous allons parler du harcèlement au travail. À cet effet, nous recevons sur notre plateau Madame Diallo Mariam Singari. Bonjour Madame Diallo.
Bonjour Sandrine.
C'est toujours un plaisir de vous avoir encore sur le plateau de Mag Emploi. J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien, et vous-même?
Ça va très bien.
Merci. Merci.
Donc, Madame Diallo Mariam Singari est experte en gestion RH, en conduite de politique du changement. Elle a commencé à travailler en France à l'âge de 18 ans en faisant, entre autres, le recouvrement de créances, la gestion de dossiers sinistres d'assurance, la dispense de travaux dirigés à des étudiants de fac, la gestion RH de façon très élargie. Et enfin, elle est consultante experte en gestion de projets de structure organisationnelle depuis peu. Au cours de ses expériences aussi variées qu'enrichissantes, elle a développé des qualités qui aujourd'hui lui servent au quotidien. Autant dans sa vie personnelle que professionnelle, n'est-ce pas?
C'est ça.
Ok. Donc, Madame Diallo, comme je disais tantôt, aujourd'hui avec vous, nous allons parler du harcèlement au travail. C'est quand même un sujet particulier, un sujet peut-être qui n'est pas très souvent abordé, mais quand même c'est nécessaire d'en parler, parce que ça existe.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. Donc, déjà la première question, vous, comment vous pouvez définir le harcèlement au travail?
Alors, je vais vous donner une définition un peu un mixte entre le juridique et ce qui se dit dans le dictionnaire.
D'accord.
Le harcèlement est considéré comme des agissements répétés, donc le caractère répété, qui vont induire une personne qui peut avoir un ascendant ou pas sur une autre personne à lui faire des agissements répétés qui vont la pousser à être pas bien.
Okay.
À ne pas être bien au travail. Donc, on va parler du harcèlement moral au travail. Donc, le harcèlement moral englobe, en fait, toute cette partie-là où les gens vont avoir des comportements indésirables, des comportements qui vont diminuer l'autre par des paroles, par des actes, par des gestes, mais de façon répétée. Mmh. Et qui vont avoir des conséquences sur la personne qui les subit. Donc, les conséquences, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, ça va être des conséquences où avoir la peur au ventre en arrivant au boulot, avoir un stress permanent, ne pas être bien dans son job, ne pas performer correctement, ne pas être engagé et tout ça. Et donc, ça se manifeste effectivement par plein de choses, hein, par des actes, par des écrits, par des paroles, et tout ça, on pourra rentrer dans le détail.
Ok, on en reviendra tout à l'heure. Ok, vous avez mentionné tout à l'heure dans vos propos le harcèlement moral. Est-ce que c'est le seul type d'harcèlement qui existe, mais il y a d'autres types d'harcèlement qui existent dans le milieu du travail?
Alors, en fait, le harcèlement moral est un ensemble de choses. Okay. Donc, en fait, qui est partagé entre plusieurs choses. Donc, quand on parle de harcèlement moral, c'est tous les comportements hostiles qui peuvent y avoir sur le lieu de travail. Des critiques constantes, le fait de « set up quelqu'un for failure », lui donner des objectifs inatteignables, mm-hmm. lui dire des choses qui ne sont pas réalisables et essayer de la noter par rapport à ça. Ça peut aussi être un harcèlement qui va être discriminatoire. D'ailleurs, ça, c'est le harcèlement qui est prévu par le Code du travail au Mali.
Okay.
Donc, en fait, il n'y a pas un article spécifique dans le Code du travail au Mali qui interdit le harcèlement, mais il y a un article qui est la nouvelle loi de 2016, L4 nouveau, et qui explique bien que la loi interdit toute discrimination.
D'accord.
Donc, la discrimination peut être en fonction du sexe, de la race, de l'orientation sexuelle ou de la sérologie de quelqu'un.
Okay.
Donc, discriminer quelqu'un par rapport à un handicap, une maladie, ou des choses comme ça, sont des choses interdites par la loi au Mali, la loi du travail.
D'accord.
Le harcèlement moral englobe justement tout ça, parce qu'en fait, c'est vraiment jouer sur le moral de quelqu'un et l'empêcher de faire son travail. Et dans aussi tout ça, il y a aussi le harcèlement sexuel, qui, lui, va être orienté vers une personne de sexe opposé à qui on va demander des faveurs qui ne sont pas... la personne n'a pas demandé. Et, en fait, voilà, elle va subir des agissements répétés ou d'un collègue ou d'un supérieur pour demander des faveurs. Et elle n'est pas forcément volontaire pour recevoir ces faveurs-là.
Okay.
Donc, tout ça, c'est les types de harcèlement qui peuvent exister au travail. Mais, du coup, le moral, en fait, regroupe tout ça. Voilà.
D'accord. OK. Quels peuvent être les signes du harcèlement dans le milieu professionnel?
Ça va être... alors, pour la personne qui les subit, ça va vraiment être un stress permanent. C'est pas normal, quand on vient au travail, d'avoir la boule au ventre. C'est pas normal qu'on ait peur d'être avec des collègues. C'est pas normal qu'on ait peur d'être avec son supérieur. Mm-hmm. Donc, en fait, la façon dont ça se voit, c'est vraiment ça en premier lieu. Ça va être une baisse de performance. Okay. Ça va être aussi des retards fréquents. Et ça peut même aller jusqu'à perdre son emploi. Mm-hmm. Parce que du coup, on va nous donner des objectifs qui vont être inatteignables, ou ça va être dans des situations où la personne n'a pas un contrat permanent, et pour renouveler son contrat, on va lui donner des objectifs qu'elle va pas atteindre, et donc elle va pas avoir de contrat à renouveler.
Okay.
Je pense entre autres, par exemple, à quelqu'un qui va être dans une situation où il est en stage et va recevoir des avances et elle ne va pas forcément recevoir ça de façon positive et ne va pas avoir de contrat à l'issue de son stage ou ne va pas être prolongé justement parce qu'il a refusé ou elle a refusé les avances de la personne.
Ok.
Donc, voilà.
Mais quelles sont la plupart du temps les personnes qui sont les plus touchées par le harcèlement ?
Ça, c'est ce que je disais tantôt. En fait, c'est en premier lieu, moi, j'ai pas de données exactes sur le Mali. Mmh. Mais en premier lieu, il y a beaucoup de programmes du gouvernement ou d'ONG internationales qui œuvrent pour les violences basées sur le genre.
Okay.
Et ça, c'est fait justement parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de harcèlement ou de discrimination en fonction du sexe. Mmh. Et donc, vis-à-vis des femmes. Et donc, les personnes les plus vulnérables et les plus exposées vont souvent être des femmes.
Okay.
Ou des jeunes. Des personnes en situation de handicap, mais ça, c'est beaucoup plus tabou, on n'en parle pas souvent.
On en parle pas, ouais.
Ou ça va être des personnes en situation de précarité de l'emploi, okay. Les stagiaires.
Okay.
Donc souvent, c'est les gens vraiment qui sont dans une situation où ils vont vraiment être dans des situations tellement compliquées que derrière, ils ne vont pas se plaindre, ils ne vont pas le dire, ils ne vont même pas le reconnaître, même qu'ils subissent ça, en fait.
Ouais.
Et donc, ils vont le subir et ça va être très compliqué pour eux de s'en sortir tout seul.
Ok. Mais qu'est-ce qui peut expliquer même le harcèlement au travail ? Quelles peuvent être les causes ?
Pour moi, l'une des premières causes, c'est l'abus de pouvoir. C'est très souvent la personne qui va avoir un ascendant sur l'autre, qui va être son supérieur ou son chef, et qui va abuser de son pouvoir de chef.
D'accord.
Le contrat de travail, déjà, est un contrat de subordination. Donc, vous êtes soumis à quelqu'un sur le contrat et vous êtes dépendant de lui économiquement. Parce qu'à la fin du mois, c'est votre patron qui vous paye. Donc, l'une des premières causes, ça va vraiment être l'abus de pouvoir de la part du patron. Les causes après, pour moi, ça peut être, par exemple, le manque de sensibilisation. C'est-à-dire que les gens vont subir ça et ne pas savoir que c'est ça qu'ils subissent.
Ça, ouais.
Donc, en fait, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent se faire aider, qu'ils peuvent se faire assister et que la loi les protège. Et que l'entreprise a un devoir, une obligation de protéger les employés face à ce phénomène-là.
Ok.
Donc, les causes vont être cela essentiellement. Donc, ne pas savoir qu'on l'est, ne pas savoir qu'on est victime et ne pas savoir comment faire pour ne pas être victime. Et pour l'employeur, enfin pour une entreprise, le fait de ne pas être forcément transparente dans sa communication sur ce sujet.
Ouais.
La loi oblige l'employeur, en fait, à mettre tout en œuvre pour expliquer aux employés victimes de ce genre de situation qu'ils ont des recours.
Ouais.
Donc, de façon pénale, les gens, en fait, le code pénal prévoit des dispositions pour aider les victimes. Et donc, l'employeur doit expliquer, en tout cas, faire des affiches pour dire que c'est interdit de discriminer par rapport, justement, aux discriminations dont je parlais tout à l'heure. Et surtout, expliquer aux employés leurs droits, tout simplement. Communiquer
D'accord.
clairement.
D'accord. OK. Quelles sont les conséquences du harcèlement au travail ?
Ça peut aller tout simplement de la peur au ventre à quelque chose d'encore plus grave, à l'incapacité complète de ne pas faire son travail. Moi, j'ai vu des situations, pas forcément au Mali, où les gens sont dans des situations tellement dramatiques par rapport à un harcèlement subi au travail que ça commence par des maux de ventre, du stress, des maladies psychosomatiques, où ils vont chez le médecin, ils sont pas bien, ils sont arrêtés quotidiennement, arrêtés pendant plusieurs mois jusqu'à perdre leur emploi.
Okay.
J'ai vu des gens qui ont tellement été victimes de ce harcèlement-là qu'ils se sont suicidés. Donc ça peut aller très, 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 très loin. Ça va du truc le plus simple, la maladie la plus simple, à un risque de perdre son emploi, un risque de maladie beaucoup plus grave et un risque vraiment pour sa vie.
Ouais. Mais c'est vrai que là, tout à l'heure, vous avez mentionné que l'État, normalement, l'employeur devrait expliquer, devrait communiquer très clairement là-dessus. Mais où est-ce qu'on peut dénoncer le harcèlement au travail, dans le cas où ça arrivait ?
En premier lieu, chez l'employeur. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que moi, je sais que les victimes de... moi, j'ai déjà eu à assister des victimes dans des cas comme ça, où la première chose que je leur dis, c'est documenter. Quand vous subissez du harcèlement, c'est le caractère répété qui va indiquer que c'est un harcèlement. Donc, cherchez le maximum de preuves possibles et parlez-en. Parlez-en en premier lieu à l'employeur. Alors, dans les cas où c'est l'employeur même qui est la personne qui harcèle, Là, on peut se faire aider. On va aller jusqu'à justement à faire appel à un professionnel, du droit du travail social qui va vous aider, par exemple, à rédiger une lettre, à aller vous plaindre à l'inspection du travail, à aller voir des comités syndicaux ou des centrales syndicales, même si vous ne faites pas partie ou votre employeur ne fait pas partie. Vous pouvez vous faire aider, vous faire assister. Ces personnes-là sont les premières personnes qui peuvent vous aider. Okay. Mais la chose à ne pas faire, c'est surtout ne pas en parler. Ça, c'est la chose à ne pas faire.
Okay.
Il ne faut pas cacher, il ne faut pas dire « Bon, moi, je ne veux pas parce que je ne vais pas gagner ou parce que je vais
enfin. » Mais est-ce que aussi la société ne favorise pas cela?
Je suis assez d'accord avec vous parce qu'on est dans une société, il faut le reconnaître, où la femme, en tout cas, quand on parle de harcèlement sexuel, la femme n'est pas très protégée. Mais en fait, justement, c'est à nous, les femmes, de savoir.
Mais le harcèlement peut être dans les deux sens aussi. Ça peut être un homme aussi.
Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de précarité de l'emploi. Ouais. Ça peut être, voilà, une chef, donc une femme qui est chef, et son stagiaire, il va lui faire des avances et ne va pas accepter et se trouver dans une situation complètement de harcèlement moral. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord. Mais dans ces genres de situations ou dans n'importe quelle situation, la première des choses, c'est en parler. Ne pas hésiter à documenter. En parler et savoir où aller. Donc, le premier échelon, c'est l'employeur lui-même.
Okay.
Deuxième échelon, ça va être l'inspection du travail, jusqu'à faire appel à un professionnel, donc un avocat spécialiste de droit du travail ou un syndicat, ou en dernier lieu, le tribunal du travail. Mais en tout cas, il y a toujours des recours juridiques.
D'accord. Mais comment est-ce qu'en tant... Bon, peut-être pour ne pas arriver jusque-là, comment est-ce qu'en tant qu'employé, on peut même éviter d'être harcelé? Est-ce que c'est possible déjà même d'éviter cela?
Pour moi, l'une des premières choses, c'est poser des limites. Poser des limites. Moi, j'ai entendu des situations où les gens se retrouvent complètement dans des situations mais incongrues parce que dès le départ, on n'a pas posé de limites. Si moi, je sais que si je travaille avec un homme, moi, je sais que voilà, je vais prendre un exemple sur moi-même. Si je travaille avec un homme, il y a des situations où quand c'est pas professionnel, je le dis tout de suite. Et j'arrête tout de suite. Quand je reçois un message et qu'il dit des choses qui sont hors du cadre professionnel, je recadre tout de suite.
Ouais.
Donc, n'hésitez pas à mettre les choses au clair dès le départ.
Ouais.
Si vous ne posez pas de limite au départ et que les choses s'enveniment, c'est compliqué d'arrêter après. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais je ne vais pas parler parce que je suis... » Non, non, il faut surtout en parler dès le départ. Quand ça ne va pas, quand ce n'est pas professionnel, dites-le.
Ouais.
Ayez une communication transparente. Sachez-le, en fait, il faut reconnaître soi-même qu'on peut être victime ou qu'on est victime quand la situation se présente, le reconnaître soi-même pour soi-même et agir en conséquence.
Okay.
Donc, connaître ses droits et les faire prévaloir, tout simplement. Être clair sur ce qui est la limite pour vous.
D'accord.
Donc, quand la limite, c'est moi, mon espace vital, c'est ça, et l'autre personne ne doit pas venir dans mon espace, quand ça se passe, dites-le, exprimez-le.
Okay.
Clairement.
D'accord.
Tout simplement.
Ok. C'est vrai que vous avez expliqué tout à l'heure un peu les recours. Quels peuvent être les recours concrets auxquels celui qui est victime d'harcèlement peut disposer pour pouvoir porter, je sais pas si j'ai porté plainte ou...
J'ai beaucoup insisté sur la partie où je disais que la personne, en fait, doit documenter.
Ok.
Si vous avez bien documenté, correctement documenté, la première lettre, moi, pour moi, si on doit dénoncer, on écrit. La première lettre que moi j'enverrai à mon employeur, ce sera une lettre avec un ordre chronologique, avec les choses tout à fait détaillées de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé et de comment moi j'ai réagi dans chaque situation. Et en fait, quelque chose de formel et quelque chose d'écrit. Donc, quelle que ce soit une lettre pour l'employeur, que ce soit une lettre pour l'inspection du travail, formalisez les choses. Donc, déposez une plainte formelle, ne le dites pas que oralement. Allez-y, n'ayez pas peur en vous disant « ils ne vont pas écouter » ou « je ne vais pas être écouté » ou « je ne vais pas être entendu ». En fait, pas du tout. Les gens qui se plaignent sont très souvent écoutés. Les professionnels, en tout cas, par exemple, moi je sais que si vous allez voir le département RH, c'est le département le plus indiqué pour parler de ce genre de situation. Premièrement, à cause de la confidentialité. Deuxièmement, à cause du fait que, voilà, ils sont formés pour ça. Donc, ils pourront vous aider de la meilleure façon en vous disant qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Formaliser les choses.
D'accord.
Et tout à l'heure, c'est ça que je disais. Pour moi, le fait de demander aux gens de formaliser leur permet eux-mêmes de mettre les mots sur ce qu'ils subissent.
Ouais, d'accord. Que peut faire l'employeur pour aider ou éviter le harcèlement au travail?
Alors, il doit communiquer aussi. Donc, en fait, la première communication, c'est les affichages. C'est le règlement intérieur. Tout ce qui est interdit, tout ce qui est de sa prérogative en tant qu'employeur de faire, tout ce qui est de ses droits ou devoirs en tant qu'employeur de faire, le faire.
Okay.
Dans tous les règlements intérieurs que j'ai rédigés pour des grandes entreprises, j'ai toujours une loi qui va prévoir un article sur le harcèlement sexuel. Donc, c'est pas que ça, justement. Et moi, j'essaye de faire sortir ce côté harcèlement sexuel parce que la loi ne la prévoit pas directement, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi malienne en tout cas. Mais du coup, je la prévois justement pour être sûre que ça, c'est vraiment pris en compte. Donc l'employeur, en fait, c'est lui qui me demande de faire ça. Moi, j'ai déjà eu des employeurs qui me demandent de faire ça, qui viennent de pays où le droit est assez avancé et qu'il y a des articles spécifiquement dédiés à cela. Et donc, on le met et on le fait directement. Quand au Mali, du coup, je disais qu'il y avait un article qui prévoit de lutter contre les discriminations, de ne pas faire de discrimination sur certains sujets, ou en tout cas par rapport à la race, à la religion, au sexe, au handicap ou à certaines situations. Donc, l'expliquer clairement qu'on est pour cela ou en tout cas contre, on se met du côté de la loi et on le respecte clairement. Okay. Mis à part les règles et les politiques mises en place, surtout communiquer et accepter quand les gens viennent se plaindre. Aider les victimes. Aider et être là pour les victimes en tant qu'employeur. Moi, je sais que voilà, si c'est pas lui le président ou le propriétaire de l'entreprise, la première personne, il doit être la personne la mieux indiquée pour que l'autre vienne le voir. Ouvert, prendre les choses à bras le corps et aider la victime.
D'accord.
Surtout reconnaître la situation de victime. Ça y va non seulement de votre devoir vis-à-vis de la loi, mais aussi de votre réputation en tant qu'employeur, tout simplement. Okay. Votre image. Donc pour moi, l'employeur a tout à gagner en fait en communiquant, en étant clair, en respectant les victimes et en reconnaissant le statut de victime.
D'accord, ok. Mais c'est vrai que tout à l'heure, vous avez mentionné le fait que le harcèlement au travail, il n'y avait pas de, je sais pas, la loi n'avait rien prévu par rapport à cela. Maintenant, donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des actions menées directement pour pouvoir aider les victimes, même s'il n'y a pas des articles qui sont écrits pour pouvoir aider les victimes? Donc, les personnes qui sont victimes de ça au Mali, comment est-ce que ça se gère la plupart du temps?
En fait, l'une des lois qu'on utilise énormément, moi, quand je rédige des lettres ou quand j'aide les victimes, c'est les lois qui demandent à ce que la sécurité au travail soit assurée.
Ok.
On a le droit de travailler dans un environnement sûr et qui nous protège. Personne ne doit venir au travail le matin avec la boule au ventre, avec un stress permanent. On doit être dans toutes les conditions pour être à son meilleur et réaliser ses objectifs. Donc, l'idée, c'est vraiment le fait de déposer plainte, le fait de vouloir déposer une plainte auprès de l'inspection du travail ou du tribunal ou de se faire assister par un avocat. Justement, c'est les codes qu'ils vont évoquer, ce vont être ces codes-là. Non seulement se retourner contre la personne qui va faire subir ce harcèlement, mais aussi contre l'employeur, de ne pas offrir cet environnement safe pour l'employé.
Okay.
Donc, quel que soit le type d'employé, quel que soit le type de contrat qu'il a, quel que soit, garantissez un environnement sûr, un environnement dans lequel les gens se sentent assez à l'aise.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, Madame Diallo. Nous allons passer maintenant à la question de la semaine. Ok, Madame Diallo, la question de la semaine a été posée par Fatma Takane, qui est stagiaire dans une société de la place. Elle dit, je suis une jeune dame novice dans une entreprise et je suis victime de harcèlement de mon supérieur hiérarchique. Que pouvez-vous me proposer pour m'aider? C'est vrai qu'on avait déjà commencé à mentionner un peu cela. Maintenant, bon, des conseils concrets pour pouvoir aider la jeune dame.
Concrètement, qu'elle documente, qu'elle commence à documenter si elle ne l'a pas encore fait. La personne qui est son supérieur, si le harcèlement est subi de cette personne, qu'elle passe voir les RH de l'entreprise directement. Qu'elle documente, qu'elle écrive et qu'elle dépose une plainte formelle.
C'est vrai que là, ce n'est pas mentionné, mais est-ce qu'elle est dans le cas où c'est au département RH qu'elle fait son stage?
C'est le RH qui est son problème.
Voilà. Bah,
qu'elle aille voir le directeur de l'entreprise,
okay.
Tout simplement. Moi, je n'aurais pas peur. Enfin, vraiment, être claire dès le départ. Donc, déjà voir si elle a posé des limites, si elle a expliqué clairement qu'elle n'est pas, elle ne veut pas recevoir ces avances-là, elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas y aller et qu'elle a peur. Parce que si elle ne parle pas, j'ai vu des cas, j'ai entendu, j'ai lu ça il y a quelques jours, quelqu'un parlait d'une histoire où quelqu'un qui est en stage disait être victime de harcèlement et en fait elle n'a rien dit, le stage est fini, elle n'a pas été renouvelée et en plus de ça, elle n'a pas eu de contrat. Donc, plus tard, quand le même employeur a fait des offres d'emploi, elle a postulé, elle n'a pas été recrutée. On lui a dit, non, mais c'est parce que dans ton dossier, chez nous, c'est tout est dit pour ne pas qu'on te recrute. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'a pas parlé.
C'est ça.
Et que l'autre personne a parlé avant elle. Il y a quelque chose qui est autorisé par la loi. Aider les victimes et surtout que quelqu'un dénonce. C'est complètement autorisé. Et c'est gratuit. Et c'est normal, on est victime. Reconnaissez votre statut de victime et parlez-en. Mais ce qui est interdit par la loi, c'est les gens qui vont mentir pour dire ou dénoncer des faits qui ne sont pas vrais. Et donc ça, c'est l'autre personne qui a fait ça en vrai. En réalité, elle a non seulement... Et lui, la personne vous a empêché de vous réaliser professionnellement, mais surtout, elle a menti sur vous pour que derrière, ça gâte complètement votre carrière.
C'est clair.
Donc c'est parce que vous n'avez pas parlé. Mais si vous aviez parlé au départ, peut-être que ça aurait complètement changé la donne, en fait. En réalité, on se dit, nous, on est en position de faiblesse et l'autre est en position de force, donc peut-être qu'on ne va pas gagner. Mais allez-y. Quand tu ne prends pas le risque, tu ne peux pas savoir. Mais vous-même, reconnaissez que vous êtes victime et allez-y, parlez-en. Okay. N'hésitez pas. Il y aura toujours une oreille pour vous aider. Moi, j'étais le cheval de bataille de ce genre de situation. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais à chaque fois que c'est arrivé, j'ai été celle qui va au charbon avec les gens pour les aider. Parce que je sais comment faire, je sais comment rédiger, je sais qui aller voir et comment aller le voir. En cas de rupture de contrat ou en cas de départ de l'employeur, quelle que soit la façon de partir, que ce soit une rupture de contrat du fait de l'employeur ou que ce soit une démission, si vous êtes victime de harcèlement et que c'est prouvé que votre plainte est recevable, la rupture de votre contrat est réqualifiée toujours en rupture abusive et vous avez des dommages et intérêts qui vous sont payés pour ça par la loi. Cela est prévu. D'accord. Donc, vous ne perdez pas grand-chose à y aller en réalité.
D'accord. Maintenant, est-ce que c'est facile même de collecter les preuves ? C'est vrai que vous avez parlé de collecter, il faut avoir des preuves en bonne et due forme aussi pour pouvoir prouver le harcèlement. Mais est-ce que déjà c'est facile même de collecter les preuves ?
L'une des premières choses que j'avais dit, c'était le caractère répété. En fait, le fait que ce soit répété, je suis certaine que vous allez avoir des preuves. Moi, je me souviens d'une situation où, en fait, c'était des messages. Donc, quand j'ai dit c'est des messages, ça va être des messages qui vont vous être envoyés régulièrement sur des choses. Ça va être, par exemple, quelqu'un qui va vous mettre, tout à l'heure quand je parlais, il va vous donner des objectifs inatteignables ou des choses complètement contradictoires qui ne vont pas aller avec ce que vous avez comme objectif au départ. Quand c'est des situations comme ça, la preuve, ça va uniquement être votre évaluation annuelle.
Ouais.
Dans l'évaluation, ça va apparaître. Ce que vous avez accompli, votre fiche de poste est là, et les objectifs qu'on vous a assignés. Un inspecteur du travail, quand vous allez le voir pour vous plaindre, il va regarder ses preuves. Ça, c'est des preuves. C'est des preuves. Et c'est pas que c'est pas... En fait, la victime est une victime, en réalité. Et elle est traitée comme une victime. Elle n'est pas traitée comme quelqu'un qui va venir faire de la délation mensongère en premier lieu.
Ça,
c'est pas normalement le prime abord de comment vous êtes traité. Normalement, vous êtes une victime. Donc, quand vous venez, vous êtes traité comme une victime.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Diallo. Je sais que on est dans une société quand même un peu difficile. Et c'est encore difficile aussi. Souvent, il y a aussi les influences à côté. Peut-être même les personnes qui veulent dénoncer. Finalement, voilà, dit, ce n'est pas la peine. Tu vas perdre ton boulot, tout et tout. Donc, je crois qu'il y a aussi la peur, il y a le stress, il y a toutes ces choses-là aussi qui font que très souvent, les gens ont peur d'aller jusque dénoncer leur harceleur. Mais j'espère qu'à travers cette émission, quand même, ces personnes vont avoir le courage de pouvoir dénoncer afin que aussi les harcèlements dans le milieu professionnel aussi cessent, permettent aussi aux autres de pouvoir travailler
dans de bonnes conditions.
Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Madame Diallo.
Avec plaisir.
Merci. Nous allons passer maintenant à l'instant Balibara avec Aissata Keïta. Ok, bonjour Aissata.
Bonjour Sandrine.
Tu vas bien?
Oui, très ravie de venir sur ce plateau.
C'est un plaisir aussi. Aujourd'hui, nous aurons quoi comme thème d'Instant Malibara?
Alors, aujourd'hui, comme Instant Malibara, nous allons vous parler de comment développer sa culture d'entreprise. Okay. La première exercice consiste à définir les valeurs de votre entreprise. Créer une culture d'entreprise consiste en premier lieu à identifier les valeurs de votre entreprise. Les valeurs de votre entreprise vous soutiennent dans l'accomplissement ou encore dans l'atteinte de vos objectifs. Deuxième assise pour le thème de la semaine, transmettre les valeurs de l'entreprise au quotidien. Le rôle du manager d'approximité est de véhiculer au quotidien les valeurs de l'entreprise auprès de ses collaborateurs. Pour ce faire, une communication interne est étroite et indispensable. Les réunions hebdomadaires ou encore les rencontres individuelles, formelles ou informelles, sont autant d'opportunités pour incarner ou encore initier les employés dans la culture de l'entreprise. Troisième astuce pour le thème de la semaine, faire preuve d'exemplarité. Le fait d'appliquer soi-même en tant que manager principal les valeurs prônées par l'entreprise est l'une des meilleures façons d'initier les autres à s'y adhérer. Votre façon de travailler, de communiquer, de gérer les stress, les pressions sont autant de manières d'incarner la culture chez vos collaborateurs. Le manager doit donc s'assurer de véhiculer au quotidien les valeurs ou encore la culture de l'entreprise. Dernière astuce pour le thème d'aujourd'hui, adaptez votre culture en fonction de l'évolution de l'entreprise. La culture de l'entreprise ne peut pas être figée. Votre entreprise évolue en permanence, elle grandit, elle se fixe de nouveaux objectifs et le nombre d'employés augmente de plus en plus. Si celle-ci doit s'adapter à la culture de votre entreprise, vous devez également avoir le pouvoir d'initier les caractères de tout un chacun à votre culture. Ainsi, pour former une équipe bien solide et bien soudée. Ceci met fin à notre rubrique Instant Malibara de la semaine. On se dit à très bientôt pour un autre thème, Instant Malibara.
Merci beaucoup.
Merci Sandrine.
Madame Diallo.
Sandrine.
Nous sommes à la fin de l'émission. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé du harcèlement, on a donné des conseils aux victimes. Je pense que ça m'est quand même aussi nécessaire aussi de donner des conseils aussi aux personnes qui sont les harceleurs en fait. Parce qu'il faut que ça cesse aussi. Hein.
Oui.
Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi des conseils, très rapidement, aux harceleurs.
J'ai déjà assisté à une conférence en fait, sur le sujet, moi, je me souviens, en France, où en fait, il disait que la jurisprudence française ne prenait pas en compte le fait que le harceleur veuille ou ne veuille pas harceler.
Okay.
C'est-à-dire qu'il va harceler, mais en fait, des fois, ils vont se dire « Ah, mais je ne savais même pas que c'était, je faisais ça. Ah, mais je ne me rendais pas compte,
oui,
mais je
ne
savais pas. » En fait, votre intention n'est même pas prise en compte.
Mm-hmm.
La victime, quand elle va subir le harcèlement, ce qu'elle subit, en fait, c'est la première chose, c'est le caractère répété, c'est les agissements,
ouais,
c'est le fait de mettre à mal quelqu'un, de créer un environnement complètement délétère pour la personne. Enfin, toutes ces choses-là, elle les subit. Quand elle va voir un médecin, quand elle va chez le médecin et que le médecin l'arrête parce qu'elle n'est pas bien mentalement, parce qu'elle n'arrive pas à travailler, parce que psychologiquement, vous allez la harceler, quoi. Elle, son statut de victime permet de dire, elle a documenté, voilà les faits, donc elle est une victime, elle a subi le harcèlement.
Ouais.
Vous, que vous ayez envie de le faire ou pas, on s'en fout en réalité. Vous l'avez fait, le résultat est là, c'est votre faute. Donc, reconnaissez-le et on your fault, et reconnaissez votre faute et essayez de faire mieux.
D'accord.
Vous ne pouvez pas... bullying en anglais, je ne me souviens pas du terme en français, mais vous ne pouvez pas mettre la pression, une pression énorme sur quelqu'un qui est hors de tout professionnel, pas objectif, et qui va vers des... le résultat recherché par vous, c'est votre satisfaction personnelle ou un sentiment personnel. Ça n'a rien à voir avec le travail.
Ouais.
Ce n'est pas objectif, ce n'est pas professionnel. Arrêtez-le. Vous n'aimerez pas subir ça. Et je suis sûre que toutes ces personnes-là, ils ont des petits trucs cachés qui vont faire que si eux, ils subissent autre chose, qui n'est pas le harcèlement, bien sûr, c'est les harceleurs, ils ne vont pas être bien non plus.
Oui.
Pensez à vous quand vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas bien et ne mettez pas les gens dans les mêmes situations.
Oui.
Si quelqu'un ne veut pas de vos avances, vous trouvez toujours quelqu'un d'autre qui va en vouloir, laissez cette personne-là. Ce n'est pas obligé. Quand c'est professionnel, gardez le professionnel, restez professionnel et ça s'arrête là.
D'accord. C'est bien noté et je pense que le message il est très bien passé. J'espère que ça va permettre aussi de réduire le nombre des personnes qui sont harcelées en entreprise.
Je l'espère.
Merci beaucoup Madame Diallo.
Avec
Merci
plaisir.
D'avoir accepté
avec
de, d'être sur le plateau avec nous.
Avec plaisir.
D'avoir aussi donné tous ces conseils là aussi par rapport au thème de l'harcèlement. C'était un thème vraiment très intéressant et un thème qu'il fallait débattre. Donc, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et on espère qu'on vous aura une autre fois sur le plateau de Mag Emploi.
Avec plaisir encore.
Voilà. Donc,
merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci
à vous.
Merci aussi à Aïssata. Merci d'avoir animé cette chronique d'Instant Malibara.
C'est un plaisir.
Merci à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire l'émission Mag Emploi. Merci aussi à nos téléspectateurs. C'est grâce à vous que nous sommes là chaque mercredi à partir de 20h. Nous vous rappelons que Mag Emploi, c'est l'émission qui est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Jolibati News. D'ici là, portez-vous bien.